20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Trésor, trésor, voici un mot qu'exècrent les archéologues, mais qui, une fois n'est pas coutume, sera ce soir au cœur du magazine d'archéologie de France Culture. Des trésors, il en sort, de tout type, de toute forme. Parmi eux, l'exceptionnelle représentation de chevaux, l'ultime représentant de l'art figuratif de la préhistoire, vieux de 12 000 ans, et découvert par Miguel Biard à Angoulême. Mais aussi trésor de monnaie entre Moyen-Âge finissant et Renaissance, exhumé dans des toilettes bourguignonnes, sans oublier le fameux trésor de Tavers, daté du 6e siècle avant notre ère. À croire que les archéologues y prendraient goût. D'ailleurs, le dernier livre de l'un d'entre eux, Jean-Paul Demoule, n'a-t-il pas pour titre Trésor ? Mon invité est justement au centre d'un grand trésor, un trésor qui aurait bien pu partir aux oubliettes de l'histoire. Pierre-Yves Milsan, bonsoir.
Bonsoir Vincent Charpentier.
Maître de conférence à l'université Jean Jaurès de Toulouse, proto-historien et spécialiste des élites gauloises, vous allez nous raconter l'histoire qui entoure ce fameux trésor de Tavers, acquis il y a 3 semaines par l'État. Mais avant, partons à Dijon, où un autre trésor vient d'être exhumé dans la fouille de Stéphane Naïx et de Pascal Listra de l'INRAP. On les écoute. Stéphane Alix, c'est lors d'un test au cœur de Dijon, ce que vous appelez un diagnostic, que vous avez mis au jour un trésor.
Oui, alors je le qualifierais plutôt de dépôt, le mot trésor étant un peu fantasmagorique. Mais oui, c'est exactement ça. Un diagnostic a eu lieu dans le secteur de Sainte-Bénigne en début janvier 2019. Et dans les premières couches archéologiques un peu anciennes, c'est-à-dire de la fin du Moyen-Âge et du tout début du 16e, un dépôt d'une trentaine de monnaies en argent et en or a été découvert. Il y a une dizaine de monnaies en or qui était visiblement contenu dans une petite boîte en bronze, en alliage cuivreux, malheureusement assez détériorée par les constructions ultérieures, mais qui est assez exceptionnelle, puisque donc déjà par les métaux qui la composent, mais aussi par les pièces elles-mêmes, qui sont des monnaies extra-bourguignonnes, dans leur immense majorité, même la quasi-totalité, et même extra-françaises, puisqu'on a beaucoup de pièces italiennes, du nord de l'Europe, du Brabant, de Suisse, etc., de Savoie. Et je crois qu'il n'y a que 2 monnaies dans le dépôt qui sont des monnaies royales, en fait, de Louis XI.
Pascal Listra, le trésor a été découvert, mais qu'est-ce qu'il y avait au-dessus ? Et pourquoi toutes ces monnaies sont si dégradées ?
Alors, elles ne sont pas vraiment dégradées, parce que ce sont des monnaies de bon aloi, et elles sont concrétionnées. Alors, c'était un petit malheur au moment de l'étude pour le rendu du rapport de diagnostic, puisqu'on ne pouvait pas lire ces monnaies qui étaient prises comme dans un bloc, comme dans une énorme concrétion. Mais c'est une chance pour nous, parce que ça a conservé le geste du dépositaire de ce dépôt, de l'enfouisseur. Les monnaies ont été comme fossilisées. Elles ont été prises dans un encroûtement très dur, qui est lié à un aménagement moderne qui est arrivé après la destruction de l'habitation. On estime à peu près à la fin du 19e siècle, début 20e, le creusement et l'emplacement de toilettes qui étaient au fond de la cour, qui ont vraisemblablement fui pendant au moins un siècle sur ce dépôt monétaire, en créant une oxydation, un encroûtement, voilà, qui a scellé ces monnaies. Mais ça a conservé un geste qui a plusieurs siècles.
Quelle est la chronologie des monnaies ?
La chronologie des monnaies s'étale de 1460 à 1494. Alors, elles ont vraisemblablement été collectées petit à petit, peut-être au gré d'échanges commerciaux. Alors ça, en l'état, on ne peut pas forcément l'établir de manière formelle, mais voilà, notre enfouisseur est quelqu'un qui reçoit des monnaies étrangères lors d'échanges, qui les met de côté, certainement pour leur forte valeur, et qui, arrivé en 1490, voit tomber une ordonnance royale de Charles VIII qui en interdit l'usage dans le royaume de France et qui doit les isoler pour éviter la confiscation et peut-être en espérant une levée d'interdit ou le moment de pouvoir les échanger pour leur valeur métallique, les a cachés. Et on ne sait pas pourquoi il n'est jamais venu les récupérer.
C'est un peu comme les monnaies de 5 francs en argent ?
C'est exactement ça. C'est un peu comme le changement des pièces de 5 francs. Quand il a été émis des monnaies identiques, mais faites en cupro-nickel, je crois, un alliage bien brillant, les gens n'ont pas été dupes et ils ont mis de côté toutes ces pièces d'argent qu'on retrouve encore maintenant dans les bas de laine de nos grands-mères.
Qui est le propriétaire de ce trésor ?
Alors le propriétaire, on ne le connaît pas. Il nous a laissé dans ce petit dépôt un médaillon de mariage avec des initiales. Alors, qui ont une double lecture possible, c'est soit V et C, soit V et D, puisque le C au XVe siècle peut être fermé et ressembler à la lettre D, donc on ne sait pas exactement. Mais ce médaillon de mariage nous donne les initiales, vraisemblablement, du couple.
C'est un petit noble, c'est un marchand ?
C'est difficile à établir aussi, c'est un quartier qui regroupait des personnes bourgeoises, donc oui, pourquoi pas un commerçant. L'origine éloignée des monnaies pourrait laisser penser à quelqu'un qui fréquente au moins des foires. Ça ne veut pas dire que lui-même se rend en Italie ou en Savoie ou en Suisse, mais qu'il échange avec des gens lors des foires, peut-être les foires de Châlons, et qu'au gré de ces échanges, il reçoit des monnaies étrangères, des monnaies fortes.
Alors ces monnaies fortes, elles sont fortes, mais elles sont aussi très belles, et elles viennent de loin. Elles viennent d'Italie, elles viennent de Venise, de Milan, elles viennent aussi du pape.
Il y a deux monnaies des papes, Nicolas V et Innocent VIII. Il y a des monnaies de Galeazzo Maria Sforza, des monnaies de Venise, des monnaies du duché de Savoie qui sont très représentées alors que ce sont des monnaies considérées comme rares. Voilà, ce sont que des monnaies très fortes, ce sont ce qu'on appelle des testons, qui s'appellent comme ça parce qu'ils représentent la tête de leur émetteur, c'est la testa. Ce sont des vrais petits bijoux artistiques de la Renaissance. Voilà, ce sont des portraits très réalistes, ce qui est nouveau pour le paysage de l'époque. En Bourgogne ou dans le Royaume de France, on est resté sur un modèle très médiéval de la monnaie qui représente les armoiries de l'émetteur, parfois une représentation équestre du roi ou du duc. Mais là, on a pour la première fois des portraits, des bustes très très réalistes.
Et une monnaie vous a vraiment donné du mal ?
Une monnaie particulière, elle ne m'a pas donné de mal dans le sens où elle était difficile à identifier, c'est qu'elle est surtout, elle était absente de tous les ouvrages de référence. C'était une monnaie de Aymon de Montfaucon, évêque de Lausanne. Et cette monnaie-là a été absente de tous les ouvrages, que ce soit les plus anciens ou les plus récents. Elle n'apparaissait pas. Donc j'ai contacté le cabinet des médailles de Lausanne, qui m'a confirmé que si je ne la trouvais pas, c'est qu'elle était totalement inconnue. C'est le seul exemplaire qui nous soit parvenu de ce teston de Aymon de Montfaucon, grosse monnaie d'argent de l'évêque de Lausanne. Alors ça ne veut pas dire qu'elle a été frappée en très peu d'exemplaires, mais ça veut dire que toutes ses petites sœurs ont été refondues. Il y a eu une razzia sur ces monnaies très riches en métal fin. C'est peut-être le seul exemplaire connu. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est le seul exemplaire connu. Peut-être que dans quelques années, on en trouvera d'autres, mais pour l'instant, c'est la seule.
Pierre-Yves Milsan, ce trésor possède des monnaies du duché de Milan et de la famille Sforza, alors que la semaine dernière, nous évoquions la découverte de la tombe du fameux Ludovico Sforza, le mécène de Léonard de Vinci. Quoi qu'il en soit, que pensez-vous de ce genre de découverte ?
Alors évidemment, c'est une très belle découverte qui interpelle les archéologues parce que on a des conditions ici d'études et de trouvailles qui devraient être la norme. C'est-à-dire que ce sont vraiment des professionnels, des archéologues qui ont fait la trouvaille, qui ont pu donc la contextualiser, qui ont pu la documenter et on va jusqu'à en savoir plus sur les gestes qui ont permis la constitution de cet ensemble. Donc c'est la situation qu'on aimerait tous avoir habituellement.
Alors plongeons maintenant dans le trésor de Tavers. Tout commence en février 2012, dans la plus grande clandestinité.
Alors effectivement, en 2012, deux prospecteurs équipés d'un détecteur de métaux sont passés en fait sur une villa gallo-romaine qui était connue depuis longtemps hein, des détectoristes de la région. Ces deux personnes n'avaient pas d'autorisation légale hein, pour pouvoir utiliser ces détecteurs. Ils ont trouvé donc des objets constituant à l'évidence un dépôt métallique du premier âge du fer. Et par le bouche à oreille, eh bien, le service régional de l'archéologie a eu connaissance de cette découverte, a pu s'en saisir et a pu ultérieurement me contacter pour que j'en assure l'étude. Et puis par la suite, j'ai moi-même proposé au service régional de l'archéologie d'aller sur le terrain pour essayer de sauver ce que l'on pouvait de la formation sur place, de manière à essayer de contextualiser les données archéologiques, parce que c'est ce qui fait sens aussi en archéologie.
Alors disons-le, ces détections de haut métal, c'est un mal terrible pour l'archéologie française.
Alors effectivement, cette activité, lorsqu'elle n'est pas légale, lorsqu'elle n'est pas autorisée, lorsqu'elle n'est pas assurée par des professionnels, crée effectivement beaucoup de dégâts. Il y a des sites entiers qui sont véritablement purgés, si je puis dire, de leurs vestiges métalliques, quelle que soit la qualité des métaux. Et on sait que dans une région comme PACA, où une étude a été faite récemment, on estime environ 1000 le nombre de ces détectoristes clandestins qui pillent des sites. On sait qu'ils vont jusqu'à radier jusqu'à 5000 hectares par an. Et on estime également qu'ils trouvent environ en moyenne un dépôt monétaire chaque mois. Donc c'est vous dire un petit peu le préjudice subi par notre patrimoine national.
Ce trésor, il va falloir se l'imaginer. Il aurait pu être comment sous terre ?
Alors, heureusement, on a pu quand même discuter avec les inventeurs qui, quand même, ont compris l'importance de leur découverte. Et donc, ils nous ont donné quelques informations, même si malheureusement, voilà, ils n'ont pas fait de relevé, pas de photos. Ce ne sont pas des archéologues. Et nous savons simplement que les principaux objets, à savoir les torques qui décoraient les coups des personnages de l'époque, eh bien ces torques étaient placées au-dessus des autres objets. Et puis on avait quelques éléments en fer, notamment une hache qui était tout au fond. Mais finalement, on n'en sait pas beaucoup plus. C'était placé dans une petite fosse. Mais voilà, on ne connaît pas véritablement l'agencement des objets dans le détail, ce qui est un vrai problème et malheureusement quelque chose de récurrent. La plupart des dépôts métalliques de l'âge du bronze et du premier âge du fer ont été trouvés dans de telles circonstances, c'est-à-dire sans qu'il y ait observation de la part d'un archéologue, d'un scientifique.
Le trésor de Taver, c'est une 65 de pièces, 65 d'après mes souvenirs.
Oui, effectivement. Donc c'est 65 objets, essentiellement des objets en bronze, d'alliage cuivreux, 4 pièces en fer. Pour la plupart, il s'agit en fait d'objets de parure. On a une quarantaine de parures, donc des torches, je l'ai déjà dit, également des bracelets, anneaux de cheville, quelques objets qui se rapportent probablement à la guerre, éléments de poignard, pointe de lance, hache, et puis une série tout à fait remarquable de 10 haches miniatures qui sont des objets très particuliers et qui éclairent l'économie des sociétés de cette époque. Et puis on avait encore également des déchets de coulées et quantité de petits morceaux qui montrent que cet ensemble était assez composite.
Alors ces haches, elles sont, on va dire, en creux, c'est ce que vous appelez des haches à douille. C'est quelque chose que l'on connaît très très bien, par exemple en Bretagne. On serait sur un lien entre le Loiret et la Bretagne ?
Alors oui, c'est notamment un des grands intérêts de ce dépôt, c'est qu'on a donc ces objets qui sont miniatures, qui font 4 cm de longueur seulement, c'est minuscule, 7 grammes chacun. Et ces objets sont connus, mais alors véritablement en des milliers d'exemplaires, on estime qu'on en a trouvé à peu près 40 000, dans le massif armoricain, principalement en Bretagne, mais pas seulement.
Et le fameux dépôt de Tréhou.
Voilà, par exemple. Et ces 40 000 haches ont été trouvées dans des dépôts, mais qui sont très particuliers. Ce sont des dépôts monospécifiques, c'est-à-dire qui ne contiennent que des haches, si bien qu'il était très difficile de les dater précisément. Pendant longtemps, on a cru que ces haches dataient plutôt de la fin de l'âge du bronze. Mais le dépôt de Taver permet de régler la question, au moins pour les productions les plus miniatures. Ce sont bien des objets du plein premier âge du fer et même de la seconde moitié du VIe siècle.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Pierre-Yves Miltzan, vous avez aussi un objet que l'on aurait retrouvé dans une très grande tombe, la tombe princière d'Ordoff.
Alors effectivement, il y a quelques éléments qui font penser à des objets que l'on trouve à cette époque dans les tombes princières du sud-ouest de l'Allemagne, à Ordoff ou bien à proximité du grand site de la Hüneburg. C'est donc un élément de poignard, ce qu'on appelle la fusée, donc la partie centrale de la poignée, qui était associée à une pointe de lance avec une forme un peu particulière, losangique, et puis une grande hache en fer. Et ce sont des éléments qui sont effectivement trouvés en association dans la grande tombe de Ordoff ou bien dans d'autres grandes tombes princières de cette époque. Donc c'est un assemblage que l'on pourrait qualifier de masculin, mais probablement de très haut statut, ce qui montre que ces objets ont dû à un moment donné appartenir à un personnage important, masculin, de la société, de la région ou des environs.
2,678 kg, ça fait un grand dépôt, un trésor véritablement ?
Non, c'est pas un très gros dépôt. Le nombre d'objets est important, mais beaucoup d'entre eux, en fait, ne sont que des fragments. C'est-à-dire qu'une bonne partie des pièces avaient été cassées, brisées, segmentées, probablement dans la perspective d'un recyclage. Donc on le voit bien, un peu moins de 3 kilos de métal, c'est pas énorme, mais c'est disons la moyenne des dépôts de cette époque. Alors, est-ce que ça en fait un trésor au sens de pécule, ayant une certaine valeur en termes d'échange ? Probablement, parce qu'à cette époque, quand on fouille des habitats, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement, c'est le paradoxe, on est aux âges des métaux, mais il n'y a pas d'objets métalliques dans ces habitats, ni bronze ni fer, tout simplement parce que ces objets sont très soigneusement recyclés parce qu'ils ont de la valeur. Et donc, c'est paradoxalement dans les tombes et surtout dans les dépôts métalliques non funéraires, tels que celui de Tavers, que l'on va trouver les productions métalliques. Donc, ça représente quand même certainement une certaine valeur, puisque, par ailleurs, dans les habitats, tous ces éléments ont été à l'évidence recyclés, refondus ou reforgés.
Pierre-Yves Milsan, est-ce un dépôt lié à une femme, un homme, voire un enfant ?
Alors, ça, c'est un petit peu délicat. Ce que l'on voit, c'est qu'on a des objets qui appartiennent à la sphère masculine, on l'a dit, des éléments d'armement. On a d'autres pièces, et c'est la majorité qui relève plutôt de la sphère féminine. Mais ce qui est intéressant, c'est que les anneaux de cheville et les bracelets présentent des tailles, des diamètres différents. Et certaines de ces parures n'ont pu être portées que par des enfants de très bas âge. Donc à l'évidence, on a ici une sorte de collection d'objets qui ont appartenu à des adultes, mais aussi à des enfants, au moins à un homme, et surtout, j'ai envie de dire, à des femmes, parce qu'à cette époque, dans un certain nombre de dépôts, les parures, c'est plutôt l'apanage des femmes.
En tout cas, on est forcément sur des élites. Les élites sur lesquelles vous travaillez.
Alors oui, ça c'est incontestable, parce qu'on a déjà des torques, il y en a une dizaine qui ont été trouvés entiers ou sous la forme de fragments. Ces torques sont bien entendu, à cette époque, des symboles élitaires. Ce sont des marqueurs de statut éminent, en particulier pour les femmes. Par ailleurs, parmi les fragments, on a découvert un petit morceau de vase étrusque, c'est-à-dire une importation qui, à cette époque, est tout à fait exceptionnelle. Les vases étrusques au VIe siècle, on va les trouver dans les grandes tombes princières et c'est à peu près tout. Donc c'est intéressant de voir qu'on a ici la propriété, bon, on ne sait pas très bien, peut-être d'une famille, d'une communauté, qui était en contact, au moins directement, avec le bassin méditerranéen.
Quelle est la fonction de ce dépôt ? Est-il, par exemple, destiné à la refonte ou tout au contraire, pourrait-il avoir quelques vocations religieuses, voire fiduciaires ?
Alors ça, c'est une des grandes questions qui est, débattue par les archéologues depuis quasiment les origines de l'archéologie proto-historique, depuis le milieu du 19e siècle. Et effectivement, depuis un siècle et demi, on balance toujours entre ces deux hypothèses. Je pense qu'en réalité, on peut pas véritablement trancher entre l'une et l'autre. Pour une raison simple, c'est que ces dépôts, sauf exception, ne sont pas trouvés par des archéologues. On ne connaît pas leur disposition, on connaît très mal leur contexte. En revanche, ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est documenter très précisément la biographie de chacun de ces objets, c'est-à-dire véritablement depuis l'extraction de la matière première jusqu'au moment où ils sont placés dans le sol, et c'est la reconstitution très précise de cette biographie des objets, de la manière dont ils sont assemblés, qui nous permettront probablement à terme de répondre à cette question très, très intrigante, effectivement.
Justement, on parlait de la Bretagne tout à l'heure. Est-ce que vous arrivez à retracer d'autres régions qui seraient présentes au travers des objets de ce trésor de Tavers ?
Alors l'intérêt de Tavers, c'est qu'il présente une certaine mixité. On l'a vu du point de vue des personnages qui pouvaient posséder ces objets, mais c'est très clair également du point de vue culturel, puisque on a d'un côté ces petites hachadouilles armoricaines, ou de style en tout cas armoricain, qui renvoient donc plutôt au nord-ouest de la France, à ce qu'on appelle la zone atlantique. Et puis on a d'autres objets qui sont clairement hallstattiens, ou en tout cas régionaux, et qui renvoie donc à une autre sphère culturelle de l'époque. Cela montre que le Loiret, à ce moment, est en position un petit peu charnière, voyez, entre deux domaines importants d'un vaste monde qui est celui des Celtes, quand même.
Pierre-Yves Milsan, de quelle époque date ce trésor ? Il est gaulois, mais...
Oui, alors donc il est daté de la seconde moitié du VIe siècle, avant Jésus-Christ. Ça correspond à peu près à l'époque archaïque en Grèce. C'est l'époque où les Grecs, d'ailleurs, sont déjà installés dans le sud de la France. Et c'est le moment aussi du début, en tout cas, des grandes résidences princières, les Statiennes, dans le centre, l'est de la France, ou bien le sud-ouest de l'Allemagne.
Le VIe siècle, chez les Gaulois, c'est bien sûr les princes et les princesses de la Celtique. C'est la Dame de Vix, un autre trésor.
Alors, est-ce que effectivement les objets de la Dame de Vix sont un trésor? J'ai envie de dire que d'une certaine manière, oui, parce que on voit bien maintenant que les objets ont été fabriqués, en tout cas à différentes époques, et ont été rassemblés ensuite dans la tombe. Donc, d'une certaine manière, le mobilier de la Tombe de Vix constitue un trésor familial, ou en tout cas une partie d'un trésor familial qui a été prélevé pour être associé à la dépouille de cette importante femme de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ.
Pour en savoir plus sur le contexte, bien sûr, de la découverte, des études magnétométriques ont été faites, et puis vous avez bien sûr réalisé aussi des sondages. Qu'avez-vous trouvé ?
Alors, l'idée, effectivement, quand on m'a contacté, pour moi, c'était de proposer d'emblée non seulement l'étude des objets, mais également une étude de terrain, une étude contextuelle, hein, parce que la plupart de ces dépôts ayant été trouvés dans les conditions que l'on sait, il était crucial pour moi de savoir quel était l'environnement, d'autant que l'on savait qu'il y avait une villa gallo-romaine, que sous cette villa gallo-romaine était un établissement rural gaulois, une ferme, si vous voulez, qui était bien connue parce que les fossés délimitant cette ferme apparaissaient en prospection aérienne. Donc on a procédé à une prospection géophysique qui a permis de mettre au jour, de manière très détaillée, très précise, l'ensemble de ces vestiges. Il est essentiel pour moi de savoir notamment si la ferme gauloise était contemporaine ou non du dépôt. Alors celle-ci date finalement du deuxième, du premier siècle avant Jésus-Christ. Il y a un beau niveau d'incendie qui correspond peut-être d'ailleurs à la guerre des Gaules. Mais il semblerait que pour l'époque du dépôt, il semblerait qu'il n'y ait rien et que celui-ci était relativement isolé dans son environnement. Donc voilà, c'est une information un petit peu par la négative, mais qui est évidemment intéressante en soi.
Alors, ce trésor, quelle était sa destination? Une sorte de cachette?
Ça, je pense que pour le moment, on peut difficilement répondre à cette question. Pour mon compte, je pense que le dépôt de Taveyre fossilise une fois de plus, d'abord et avant tout, un cycle complexe d'utilisation des objets, de récupération de certains d'entre eux en vue d'échange. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été vu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'entre le moment où on utilise, on casse les objets et le moment où on les enfouit, eh bien ceux-ci circulent, sont échangés, parfois sur de très longues distances. Et le morceau de vase étrusque en est probablement un des indices. Maintenant, savoir pourquoi, dans quelle intention on a ensuite placé ce pécule dans le sol, je crains qu'on ne puisse jamais véritablement répondre. Mais quoi qu'il en soit, il est vrai qu'au même moment, 6e siècle avant Jésus-Christ, que ce soit dans le massif armoricain ou en Languedoc, on constitue également beaucoup, beaucoup de dépôts, des centaines, probablement même des milliers de dépôts métalliques. Et voilà, on peut se demander quand même s'il n'y aurait pas, à un moment, une raison symbolique au sens large qui permettrait d'expliquer pourquoi on ne les a pas récupérés.
On le sait, ce trésor a failli être vendu pour bloquer un éventuel achat par un musée étranger. L'État en a fait un trésor national. Toutefois, les propriétaires du terrain ont voulu le mettre aux enchères.
Alors effectivement, c'est une histoire un petit peu compliquée, à savoir que les propriétaires du terrain, avec qui j'ai toujours eu d'excellentes relations, qui m'ont permis d'ailleurs de faire les travaux sur place, ont souhaité au départ faire une dévolution des objets à l'État, mais moyennant quand même une expertise pour savoir un petit peu quelle était la valeur de ces objets. Malheureusement, cette expertise ne s'est pas faite. Donc les propriétaires ont récupéré leurs biens de manière tout à fait légitime et légale. Et puis, ils se sont adressés à des commissaires-priseurs qui, eux, ont vu tout l'intérêt de cette découverte. Et donc, les propriétaires, bien qu'ils aient été contactés ensuite par le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, eh bien, ont décliné, dans un premier temps, en tout cas, l'offre de Saint-Germain-en-Laye pour effectivement envisager la vente aux enchères.
Ce n'est pas du tout votre champ de recherche, mais quelle peut être la valeur de ce genre de dépôt? On a parlé de 50 000 euros, on a parlé de 300 000 euros, vous avez une idée?
Non, j'ai pas d'idée précise parce que moi-même, je ne suis pas expert de ces questions. Néanmoins, je pense que 50 000 euros, c'est quand même une somme très importante. Malgré tout, je me réjouis que finalement, le MAN ait pu acheter l'ensemble.
Cette découverte est totalement hors la loi. Pourquoi ce dépôt n'a-t-il pas été l'objet d'une plainte de l'État, de vous qui êtes archéologue ?
Alors, il y a différentes manières d'appréhender le problème de la détection clandestine. Parfois, on a véritablement affaire à de véritables professionnels, si je puis dire, du pillage, à des gens qui vraiment entretiennent des réseaux mafieux. Et donc, je pense qu'il faut être extrêmement ferme avec ces personnes. Et puis, à l'autre pôle, si je puis dire, de cette vaste communauté des prospecteurs illégaux, on a des gens, bon, voilà, qui ont quand même, disons, un certain intérêt pour le patrimoine local. Je ne suis pas sûr qu'il faille forcément avoir une position systématiquement très dure vis-à-vis d'eux. Et donc, le CS régional de l'archéologie, à l'époque, a préféré faire un rappel à la loi. Et je pense qu'on peut aussi bien manier le bâton que la carotte. Et donc, dans certains cas, eh bien, je pense qu'effectivement, il faut plutôt sensibiliser les personnes pour qu'elles arrêtent ces activités illégales et puis faire en sorte que l'archéologie puisse trouver sa pleine mesure.
Enfin, ce trésor, il a quand même pratiquement failli partir à l'étranger. J'ai entendu que certains grands musées du Golfe étaient très intéressés pour l'acquisition d'objets gaulois.
Effectivement, alors c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai appris la vente aux enchères, j'ai souhaité réagir dans la presse, parce que les commissaires-priseurs avaient voulu médiatiser à grand bruit cette vente. Donc dans un premier moment, j'avais été un petit peu sidéré, évidemment, par l'annonce de cette vente aux enchères. Et puis ensuite, j'ai voulu réagir pour, d'une part, dénoncer les conditions de la découverte, parce que les commissaires-priseurs ne disaient jamais que ces objets avaient été pillés, qu'ils venaient donc d'une prospection illégale. Et puis, bien entendu, je défendais l'idée que la place de ces objets était dans un musée et non pas dans une collection privée. Et donc j'ai eu de la chance, puisque la communauté des internautes s'est liguée par la suite et finalement a pu faire pression, médiatiquement parlant, sur les commissaires-priseurs, les propriétaires aussi du dépôt, et finalement tout s'est bien terminé.
Depuis 2016, une nouvelle loi existe. On a souvent dit que le trésor de Tavers était le dernier trésor français à pouvoir être vendu. C'est totalement faux.
Alors effectivement, c'est faux. Alors tout d'abord, s'il a été classé trésor national, c'est tout d'abord pour éviter en fait sa dispersion, pour éviter qu'il ne soit vendu à la découpe et pour éviter aussi son exportation. Ça, c'était une mesure qui permettait d'éviter tout cela. Mais voilà, en tant que tel, c'est pas véritablement un trésor national. C'était juste une action juridique pour éviter donc la dispersion et la vente à l'étranger. Ben effectivement, cette loi ne va s'appliquer que très progressivement, puisque ce n'est qu'à partir du 7 juillet 2016 que l'État sera propriétaire des vestiges archéologiques, mais dans les terrains qui auront été vendus ou bien hérités. Et c'est la raison pour laquelle cette loi qui est saine, qui va permettre de clarifier les choses, eh bien, malheureusement, si je puis dire, va mettre un certain temps avant de pouvoir être mise en œuvre.
Où va aller ce trésor de Tavers ?
Alors j'espère au musée d'archéologie nationale dans un premier temps, et puis j'espère bien pouvoir organiser dans un deuxième temps une exposition dans le Loiret pour pouvoir présenter enfin ces objets à nos concitoyens.
Pierre-Yves Milsan, merci beaucoup. Je sais que la revue Gallia fera prochainement paraître un de vos articles, justement, sur le trésor de Tavers. Puisque nous évoquions les trésors, je signale que Jean-Paul Demoule vient de faire paraître chez Flammarion un ouvrage intitulé Trésor. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Olivier Dupré, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons avec Miguel Biard les extraordinaires gravures préhistoriques découvertes dans la fouille d'Angoulême.